Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Épisode après épisode, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes de cet écosystème en plein essor. Pour ce 76e épisode, je reçois Xavier Agapé, qui est consultant en système d'information. Ensemble, on va essayer d'en savoir un peu plus sur l'informatique d'entreprise et les enjeux de ce monde que l'on connaît mal dans la communauté no-code. Alors il y aura plein de no-code évidemment, mais il y aura aussi du low-code, vous vous en doutez, des process et encore plein de vocabulaire qu'on va essayer un petit peu de démystifier ensemble. Allez, c'est parti. Salut Xavier, bienvenue dans le podcast. Alors les auditeurs qui font partie de la communauté No-Code France te connaissent probablement déjà, ont dû interagir avec toi d'une manière ou d'une autre, très actif, et sur le Slack et sur Twitch, tu participes à pas mal de discussions. Par contre, ils connaissent peut-être pas ton quotidien, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as fait avant aussi, enfin voilà, on va voir un petit peu ton parcours. Et ça va être l'occasion de parler en fait de pas mal de choses. Et moi, j'ai envie en fait d'élargir un petit peu les horizons des no-codeurs et des no-codeuses avec ton expérience, donc qui est très informatique, on va dire, ou système d'information, enfin plein de notions. Donc on va parler de process, on va parler de low-code, peut-être d'interface. On va voir où est-ce qu'on va arriver avec tout ça. Mais je pense qu'il y a en tout cas plein de notions vraiment dans cette informatique un peu traditionnelle, en fait, qui sont très importantes, un peu à généraliser pour notamment les no-codeurs qui no-codeuses qui se professionnalisent, et puis un peu pour tout. Enfin voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, bah déjà, bonjour Alex, et merci de m'avoir invité. Donc, juste avant de me présenter, moi j'ai vraiment écouté religieusement tous les épisodes du podcast, que je trouve d'ailleurs de grande qualité. Ça m'a appris beaucoup de choses, et c'est entre autres ce qui m'a vraiment captivé un peu dans le no-code. C'est la découverte de ce podcast. D'ailleurs, j'étais pas très podcast avant, donc c'est vraiment grâce à ce podcast là que je suis rentré dans l'univers des podcasts. Donc déjà merci pour ça.
Est-ce que tu te souviens, pardon je t'interromps, mais par curiosité, est-ce que tu te souviens comment tu nous as découvert?
Alors c'est vraiment un concours de circonstances, parce que moi j'aime bien vadrouiller un peu sur YouTube, et je crois que je l'avais déjà dit sur un live Twitch, mais en fait je suis tombé par hasard sur la chaîne de Shubham.
Ah, oui.
Et donc Shubham a parlé de contournement, je me suis dit tiens, on va voir ce que ça donne, et je suis arrivé sur le Slack comme ça, vraiment par hasard, sans savoir du tout ce que j'allais y trouver, et voilà, c'est comme ça que je vous ai découvert. Et surtout le podcast, franchement j'étais pas du tout podcast, mais je me suis dit ben, j'ai intégré la communauté, on va voir ce que ça donne le podcast. J'ai essayé, franchement j'ai accroché direct dès le premier épisode, ça m'a emporté, et voilà, c'est comme ça que vous m'avez eu.
Cool, bah écoute, voilà, donc maintenant tu es là pour le 75e épisode.
Waouh.
Il me semble, 76, j'avoue, j'ai un peu comme il y a quelques numéros de... Enfin bref, écoute, le plus important c'est que tu sois là, et on a plein de choses à discuter. Et vraiment, je pense que ta perspective, enfin je le sais parce qu'on a déjà pas mal discuté en off, mais voilà, un petit peu sur toutes ces choses-là, et ton expérience sont très intéressantes. Bah écoute, parle-nous, parce que là sinon les gens, on va pas tourner autour du pot. Dis-nous un petit peu d'où tu viens et comment... On a compris comment t'es arrivé là, mais du coup, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie?
Très bien. Je m'appelle Xavier, j'ai 35 ans, et ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je travaille en tant que consultant en management de systèmes d'information. Je vais quand même retourner un tout petit peu dans le passé sur mon parcours scolaire, qui est vraiment du coup très classique par rapport à ce que je fais maintenant. Je suis en train de le réaliser en le disant, mais j'ai fait un bac STT parce que j'étais pas très fort en maths. Donc j'ai pris un peu la voie la plus simple, et dans le STT il y avait une option informatique de gestion. Je me suis dit tiens, ça peut être intéressant, on faisait un peu de compta, un peu d'informatique, je trouvais ça très intéressant, donc je me suis lancé là-dedans. À l'issue de mon bac, j'ai continué dans cette même voie, donc j'ai fait un BTS informatique de gestion, et j'ai continué ensuite en école. J'ai fait une école d'ingénieur sur 3 ans qui s'appelait l'INSIA avant, qui a été renommée en INGESUP, et peut-être même qui a encore été renommée. J'ai 3 fois le diplôme pour la même école, parce qu'à chaque fois qu'ils se renomment, ils renvoient un diplôme.
Ah ok.
Et du coup, c'était en système d'information et génie logiciel. Donc on reste encore dans ce domaine un peu informatique et très technique d'ailleurs, puisque c'était vraiment beaucoup beaucoup de développement. Même si moi, quand je suis arrivé, en fait, le développement, c'était pas forcément ma passion, mais ça m'intéressait de comprendre en fait ce que c'est que de devenir développeur, puisque j'adorais les jeux vidéo, j'ai beaucoup traîné autour du milieu du hacking au tout début de ma carrière, on va dire, informatique. C'est peut-être pas très bien de dire ça, mais j'ai fait des petits modes de triche pour certains jeux très connus, donc je vais peut-être pas les citer. Mais
il y a prescription, non de...
Il y a prescription, ok. Donc je faisais des trainers pour Counter-Strike, donc on faisait avec une team hollandaise. On faisait des trainers pour Counter-Strike, bref, des trucs pour tirer automatiquement dans la tête.
Ah d'accord, ok. Non, parce que moi je connais pas très bien, j'ai joué à Counter-Strike évidemment, mais...
J'étais un vilain garçon.
Ouais,
ok. Et de fil en aiguille, donc moi je me suis passionné pour tout ce qui était autour justement du code, tout ce qui était la gestion de projet, le cadrage, comprendre les besoins des clients. Les accompagner dans leur démarche en fait de monter un système d'information. D'ailleurs, on pourra y revenir, je pense, un tout petit peu plus tard. C'est quoi sur ce que c'est qu'un système d'information ?
Absolument.
Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a intéressé en fait dans mes études sur les 3 ans que j'ai fait d'ailleurs en alternance, qui m'a permis de mettre directement un pied dans les entreprises. Donc, j'ai travaillé pour le Figaro et puis pour une autre entreprise. Qui d'ailleurs font partie de ces entreprises dont on n'entend pas parler, mais qui font plusieurs milliards de dollars, d'euros d'ailleurs, de chiffre d'affaires. Et ensuite, ça m'a amené, parce que moi j'aime bien ne pas faire comme tout le monde, donc j'ai été dans une école de développement, j'ai fait très peu de dev, et j'ai surtout fait du WinDev, donc je me suis fait matraquer par tous mes collègues développeurs. WinDev, c'était une plateforme qui te permettait de faire des interfaces graphiques sans coder. C'était pour moi génial parce que ça m'évitait, ça me faisait gagner beaucoup beaucoup de temps.
Est-ce que ça rentre, on avait parlé un petit peu dans l'épisode justement avec Thomas Villarène sur le low-code, de ce mouvement un peu RAD, de développement rapide.
Totalement.
Un environnement de développement rapide.
Ouais, c'était d'ailleurs, alors ils appelaient ça les L5G, les langages de 5e génération, si je dis pas de bêtises. Et il y avait un RAD, donc un outil qui permettait de faire du développement plus rapide. D'ailleurs, on écrivait même en français, dans le langage de développement était en français, ce qui faisait hurler mes collègues, mes collègues de l'école, qui disaient « mais c'est n'importe quoi de coder en français ». Moi, j'étais très très content. et à l'issue de ça, en fait... Tous mes potes de l'école en fait sont partis dans des boîtes pour faire du PHP, pour faire du Java, pour monter leur boîte. Et moi, je me suis dit non, je veux faire pas ce que font les autres. Et il y a une entreprise qui est venue me dire, écoute, il y a le métier de consultant qui existe. Il y avait personne dans ma promo qui faisait consultant, donc j'ai dit ok, moi j'y vais.
Ok. Et écoute, il va falloir que tu nous expliques ce que ça veut dire consultant. J'avais une question qui m'a échappé, mais je me souviens en fait qu'une fois on avait discuté, tu m'avais dit que dans tous les projets que tu avais fait à l'école, tu avais toujours été un peu plutôt chef de projet, que tu aimais bien être celui qui organise, quoi. Enfin, ça me semble intéressant justement pour la suite.
Tout à fait. Donc moi, j'ai l'impression, en tout cas, que j'arrive à bien m'entourer la plupart du temps. Donc comme j'étais bon en développement, mais j'étais pas forcément le meilleur parce qu'il y avait vraiment des gens très 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 bons dans mon école en dev, donc faire la concurrence avec ces personnes là c'était pas forcément très très bonne idée, donc je préférais les avoir dans mon équipe et faire ce que eux ne voulaient pas faire, donc c'est-à-dire faire la doc, faire les prés. Ça pour eux c'était totalement inimaginable de faire une prés et d'aller pitcher son projet devant les responsables de l'école et parfois devant des entreprises. Donc moi je faisais tout ça, toute la doc, tout le cadrage un peu du projet et tout ce qui était présentation, même quand il fallait parler devant le public, c'était moi qui prenais la parole la plupart du temps.
C'est intéressant parce qu'en fait là j'ai l'impression que tu as déjà un petit peu commencé à décrire le métier de consultant, ce qui va être ma prochaine question. Mais et un autre truc que je voulais souligner, en fait tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as dit voilà, effectivement il y a plein de boîtes dont on n'entend jamais parler qui ont des très gros chiffres d'affaires, et en fait c'est intéressant parce que je pense que dans tout cet épisode justement on va pas du tout parler, très peu en tout cas, de start-up, de tout cet environnement qui nous est un peu commun, familier, qu'on voit un peu tous à longueur de journée sur LinkedIn, puisque c'est ça maintenant qui monopolise un peu les médias. Et puis dans l'écosystème no-code, on va dire, c'est un petit peu notre référence quelque part, je sais pas, enfin en tout cas beaucoup des makers ont cette envie peut-être d'être start-upper, je sais pas, enfin après c'est sans trop faire d'amalgame, et c'était un petit peu ça justement l'objet de cet épisode aujourd'hui, donc c'est pour ça que je le rappelle, mais essayer de voir un peu un autre pan, quoi, c'est-à-dire que tous ces outils, toute cette technique, il y a un pan complètement inconnu et que j'ai très peu aussi évoqué dans ce podcast, des consultants, des grandes entreprises, des outils comme ServiceNow qu'on évoquera tout à l'heure, que à mon avis très peu de gens connaissent dans la communauté, enfin on a déjà eu l'occasion de s'en rendre compte, et qui pourtant sont quelque part aussi dans ce mouvement de code d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas il y a soit une influence, soit une volonté d'aller, enfin voilà, donc ça c'est ce qu'on va voir, donc je vais pas trop préempter, mais alors parle-nous un peu justement de ce que c'est consultant et du système d'information, parce que ton rôle exact, c'était pas juste consultant, non, j'imagine, c'est consultant appliqué à quelque chose, ou c'était juste consultant?
Oui, alors mon rôle exact, c'était consultant en solution, quand j'ai démarré en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait tu vas dans une entreprise et que ton objectif, c'est d'apporter les solutions numériques les plus adaptées aux besoins de ton client. C'est-à-dire que donc quand on dit les solutions numériques les plus adaptées, on parle à l'échelle de clients du CAC 40. Comme tu l'as dit, hein, c'est pas forcément des startups, parce que c'est vraiment sur des budgets qui sont minimum 7 chiffres. Ça commence à partir de 7 chiffres. Donc en effet, il y a que quelques entreprises aujourd'hui en France qui peuvent se permettre ce type de projet. Et donc on fait partie d'équipes entre 10, parfois 30 personnes, même plus des fois, et on intervient sur de manière transverse chez le client pour faire la transformation digitale. Concrètement, on va creuser dans les métiers de ce client, et on va essayer de récupérer toutes les personnes qui font du Excel ou du Shadow IT et de les réintégrer dans le système d'information, dans la DSI au final. Je sais pas si la DSI, ça parle un peu à tout le monde.
Ouais, non, justement, bah on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Ça va être notre épisode un peu aussi pédagogie autour de tout ça. Commençons par DSI. Donc, peut-être système d'information, vraiment. Qu'est-ce que tu entends par là? La DSI, donc, qui est responsable de système d'information. Ouais. Et puis après, on viendra au Shadow IT, qui est très spécifique et qui est pour le coup un vrai sujet aussi en lien avec le no-code, quoi.
Tout à fait. Alors, Le système d'information, déjà, c'est un peu le moteur dans une entreprise. C'est comment on fait transiter les flux d'informations à l'intérieur d'une entreprise. Concrètement, si on veut faire un petit parallèle avec le no-code, ce serait les outils qui permettent de faire de l'automatisation de processus et de faire discuter le service compta avec le service RH. Je dis une bêtise, mais c'est comment on va gérer tous ces flux d'informations, tous les process qui vont parcourir un peu l'entreprise de manière transverse, comment on les réunit à l'intérieur d'une stack, c'est un mot qu'on aime bien utiliser, d'une stack d'outils, ou même d'un outil un peu plus conséquent. Tu as évoqué ServiceNow tout à l'heure, il y en a d'autres, ServiceNow étant aujourd'hui le numéro 1 sur la place. C'est comment on va organiser tout ça, orchestrer tout ça, pour que les échanges à l'intérieur d'une entreprise soient fluides.
Ouais, et aussi, donc ça englobe notamment, tu as parlé beaucoup des flux, mais donc ça évoque aussi le stockage de ces données, pour qu'elles puissent effectivement transiter d'un pôle à l'autre. Et aussi tout ce qui va être interface, mais dans ton contexte, interface, ça ne veut pas dire forcément exactement ce que les gens attendent, mais en tout cas les interfaces homme-machine, l'interface visuelle, que ce soit un logiciel, que ce soit un site web, ou tout ça fait partie vraiment du système d'information au sens large, quoi.
Oui, tout. En fait, dès qu'on parle d'un outil numérique, tout outil numérique fait partie du système d'information de ton PC, à ta tablette, à ton téléphone d'entreprise, ou même aux outils connectés que tu peux retrouver dans un camion, dans les entreprises de logistique. Tout ça, ça fait partie du système d'information. Tout ça, ça donne de l'information. C'est pour ça que d'ailleurs, ça s'appelle un système d'information. C'est vraiment le système qui permet de faire transiter l'information. Toutes ces petites choses, tout le numérique, tout ce qui donne de la data fait partie du système d'information, et c'est là-dessus que nous, en tout cas que moi, mon métier de consultant, parce qu'il y a plein de types de consultants différents, et donc moi je suis un consultant, ce qu'on appelle ITSM, donc IT Service Management, rien à voir avec des gens qui se baladent en costume de cuir dans les boîtes, mais concrètement c'est le comment on manage les systèmes d'information des clients.
Et est-ce que peut-être, bah, si tu veux nous raconter, je sais pas, peut-être ton premier job, justement, un petit peu en quoi ça consistait, quoi, concrètement
Ouais. Bah, en fait, quand on commence, en tant que junior, en fait, on est plutôt consultant technique. On va moins se focaliser sur le besoin du client, mais plutôt sur comment on l'implémente. C'est un peu un job de... Alors de développeur, mais c'est là où on va intégrer un petit peu de low-code, parce qu'on fait pas vraiment du dev à proprement parler, c'est-à-dire que je vais pas aller coder une appli de A à Z. En fait, on va plutôt parler de scripting, parce qu'on travaille sur des plateformes en fait qui sont intégrées, qui ont parfois même leur propre langage de programmation. Moi, j'ai commencé sur un outil de la boîte HP, Hewlett-Packard. Qui avait son propre langage de programmation, son propre langage de scripting plutôt, avec du RAD encore, on en revient, c'est cette interface qui permet de coder plus rapidement.
Mais c'était quoi, juste pour comprendre le contexte, tu vois, enfin de...
Bah, dans le contexte, en fait, c'est qu'on avait une boîte, donc, bah, France Télévisions, pour ne pas la citer, qui avait besoin en fait d'un outil pour gérer son IT, mais vraiment juste l'IT, pas forcément le métier de la télévision, mais juste l'informatique à l'intérieur de la boîte. Et donc, ils avaient tout un tas d'outils.
Par exemple, les ordinateurs des journalistes.
Exactement. Vraiment gérer les biens et les services liés autour de l'informatique. Mais ça, on y reviendra, puisque j'ai d'autres définitions croustillantes encore à proposer. Mais concrètement, ce qu'on faisait, c'était récupérer les besoins du client. Donc on avait un chef de projet et une maîtrise d'ouvrage. Alors maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment la personne qui va discuter avec le client pour pouvoir lui soutirer des infos et faire tout ce qui est spécification. Et donc ces spécifications sont transformées ensuite, ces spécifications qu'on appelle fonctionnelles, donc qui sont vraiment le besoin du client traduite en fait dans le projet, et moi en fait je m'occupais d'implémenter ces spécifications fonctionnelles, les transformer en spécifications techniques que j'allais intégrer dans ces plateformes HP là en l'occurrence pour cette première mission.
Et ça, tu vois, c'est un point, et on va revenir après dessus, mais je dis pour que les gens aussi comprennent un petit peu où est-ce qu'on va aussi un petit peu avec ce sujet, c'est que tu vois par exemple ces sujets là par exemple on n'en parle jamais dans la communauté No Code, alors que je pense très sincèrement qu'il y a plein de choses à tirer, c'est-à-dire qu'avant de se jeter dans Airtable et commencer à essayer de faire des choses, par exemple, faire des spécifications, ça peut avoir du sens. Peut-être pas de manière aussi formelle que vous le faisiez, mais tu vois, il y a des choses aussi un petit peu dans ces étapes, à mon avis, qui sont importantes. Mais peut-être qu'on reviendra un peu dessus, et justement, d'abord, on va rester un petit peu dans ce contexte pour bien le comprendre, et puis après, on verra qu'est-ce qu'on en découle, en fait, un peu, nous, qui peut nous servir, et à nous, à nos codeurs, nos codeuses, quoi.
Ok. Du coup, bah, une fois qu'on a fait ces spécifications techniques, donc on intègre ça dans l'outil, encore une fois, c'est pas du gros développement, on est plutôt sur du scripting, puisque c'est des plateformes low-code, on en revient.
Une partie paramétrage, probablement,
c'est
en mode
une
clic,
partie paramétrage,
et après,
exactement.
Un peu de j'allais dire, de customisation, de personnalisation, on va essayer de parler français, voilà, peut-être à l'aide, justement, de lignes de code, de script, comme tu dis.
Oui. Tout à fait. Ben, on a vraiment une interface visuelle qu'on pouvait, en tout cas à l'époque, sur cet outil qui était un peu un dinosaure, hein, d'ailleurs. À cette époque-là, c'était déjà un peu sa fin, la fin de vie. Mais concrètement, on pouvait faire du glisser-déposer pour pouvoir créer des interfaces. Et derrière, on faisait juste du scripting pour dire ben, va chercher telle information dans la base de données pour l'afficher dans telle fenêtre qu'on a créée en no codant, finalement, parce que c'était vraiment du glisser-déposer.
Et. Juste pour, on est dans les années 2010 là à peu près.
Là on est, oui on est en 2011 exactement.
Okay. Ok, non, c'est juste pour avoir un petit référentiel.
Donc on est en 2011. Donc moi j'ai commencé le low code. Déjà moi ça commençait déjà à m'embêter parce qu'il fallait faire de plus on avançait, plus j'avançais en fait en compréhension des besoins, plus il fallait que j'aille loin dans la technique. Et déjà, moi, ça commençait à me fatiguer un peu parce que je voulais pas faire du développement. Je me retrouvais à faire du développement. C'est le passage un peu obligé quand on est consultant en solution pour le système d'information. Mais moi, ça commençait déjà un peu à m'embêter. Et donc, j'embêtais aussi un peu mon entreprise en disant, moi, je veux plus des missions fonctionnelles, plus être proche du client, plus découvrir les besoins et les formaliser, l'accompagner, quoi.
Ok. Ouais, ce côté fonctionnel, il est important aussi... à bien comprendre, quoi. C'était d'abord, avant d'aller dans la technique, dans l'implémentation, enfin dans le faire des choses. Il faut comprendre le besoin, imaginer, enfin prévoir en fait, organiser ce qu'on veut mettre en place, mais tout ce travail de, enfin qui est pas toujours que de la préparation d'ailleurs, qui fait. Après, il faut vérifier que les gens aussi ont bien implémenté ce qu'on avait imaginé. Enfin, il y a tout un plein d'étapes. Peut-être justement pour faire le lien avec la notion de Shadow IT et aussi essayer de préciser. Moi, il y a un mot, tu vois, que je, même aujourd'hui, je le trouve toujours un peu bizarre. Et alors, je pense que les gens qui sont pas du tout dans ce milieu ne le comprennent pas forcément. C'est le mot métier. On dit des métiers. Quand on parle des métiers, tu vois, et Thomas, on avait pas mal parlé aussi dans l'épisode. J'ai envie de te dire un peu. Finalement, c'est assez simple. C'est quelque part un peu du jargon. Mais comment toi, tu le définis, quoi?
Alors, et en plus, en le disant là, tu me fais me remarquer que c'est une simplification en fait, parce que c'est pas forcément que les métiers. Donc le métier finalement, c'est tous les pans, grosso modo, là c'est vraiment pour vulgariser, mais c'est tous les pans qui ne sont pas directement liés à l'informatique. Donc ben, par exemple quand tu travailles pour une banque, ben ça va être tout ce qui touche à la gestion des clients, par exemple. Ça, ça fait partie du métier. Tout ce qui touche à comment on va définir combien on met d'argent, par exemple, dans un distributeur automatique. C'est un métier. Il y a vraiment quelqu'un qui décide combien d'argent je mets dans le distributeur automatique de telle ville et de telle rue. Ça fait partie des métiers. Ensuite, dans les grandes boîtes, on a ce qu'on appelle les fonctions support. C'est toutes les fonctions qui vont permettre de supporter le métier et de permettre au métier de faire son boulot, finalement. Et ça, c'est tout ce qui est RH, comptable, juridique, tout ça, c'est pas forcément le métier premier de la boîte, mais c'est ce qui permet justement de supporter le métier, qu'il puisse faire son job tranquillement. Voilà, si t'as pas un service achat, c'est compliqué de faire ton job normalement, quoi.
Ouais. Oui, c'est ça, pour bien comprendre dans des contextes, je sais pas, un assureur, une banque ou une chaîne de télé, ils vont tous avoir un service RH.
Tout à fait.
Mais leur métier, c'est de vendre des assurances ou de faire la banque ou faire une chaîne télé, quoi.
C'est ça. Et donc ça, c'est les métiers. Donc les métiers, c'est ce qui produit la valeur première de la boîte, hein. Si par exemple tu travailles SNCF, ben c'est de faire rouler les trains, c'est le métier. Il y a plein de métiers autour de ça, mais le métier principal, c'est de faire rouler les trains. Et autour de ces trains, il y a tout un tas de fonctions qui vont aller supporter les personnes qui font justement le cœur du métier, ce qu'on appelle le corps. Ce cœur de métier est supporté par les RH et par le juridique, par l'informatique, du coup, qui est aussi une fonction support dans les entreprises.
Ok. Et donc, tu as évoqué à un moment un terme que moi j'aime bien, parce que je trouve marrant, c'est le shadow IT. Moi j'aime bien parce que tu sais, ça me fait penser un peu à des ninjas, tu vois, qui sont un peu dans l'ombre, qui sont en train de faire des trucs. Alors bon, c'est pas vraiment ça malheureusement, mais c'est un vrai sujet, et ça nous amènera aussi, ça nous amène progressivement sur ces sujets un peu de nos codes et tout, et de s'emparer de la technique, quoi. Mais donc, est-ce que tu peux expliquer un peu la problématique du shadow IT? Déjà, un, qu'est-ce que ça veut dire, mais aussi d'où ça vient, quoi, finalement.
Ouais. Alors, le shadow IT, c'est vraiment, moi je suis dans une boîte, je fais partie justement d'un de ces métiers ou d'une fonction support. Il y en a d'autres, hein, des fonctions dans les grandes entreprises, mais pour faire simple, on va rester là-dessus. Par exemple, je suis parti de la RH et j'ai pas d'outils pour loguer mes interviews, enfin pour renseigner les entretiens. Je vais y arriver. Dès que j'ai un entretien, ben il faudrait que je puisse quelque part noter comment c'est passé, si je le sens bien ou pas. Et potentiellement, j'ai pas d'outil. Où je suis allé voir ma DSI, j'ai dit, ben, j'aimerais bien avoir un outil pour pouvoir faire un compte rendu de ces entretiens. Et ma DSI me dit, d'accord, mais ce sera dans un an. Moi, j'en ai besoin tout de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où entrent en jeu ces petits ninjas du Shadow IT. Et du coup, ben, potentiellement, moi, même si je n'ai pas de connaissances, ben, je peux aller ouvrir un Excel et commencer à rentrer des choses dans un Excel sans que la DSI soit au courant, sans que ce soit relié à quoi que ce soit dans l'entreprise. Finalement, il n'y a que moi et peut-être mon service qui sommes au courant de ce que je suis en train de faire. Et c'est là où on parle vraiment de Shadow IT, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font... Alors, ça peut être du Excel, mais ça peut être aussi, j'ai acheté un logiciel qui me permet de faire ça, que je paye tous les mois, que l'entreprise paye et qui n'est relié à rien d'autre qu'à mon service et personne n'a aucune information sur ce que je suis en train de faire.
Et par c'est exemple, ça le chef. Dans Notion, par exemple, tu as rencontré quelqu'un qui t'a dit Notion, c'est extraordinaire, tu as adoré. Même admettons, tu as pris un plan gratuit, par exemple. Donc, plus comme ça, même l'entreprise ne sait même pas qu'elle paye quelque chose.
Tout à fait.
Et tu es sur ton plan gratuit et tu mets des données de RH dans ce truc-là. Quoi.
Tout à fait. Et ça c'est typiquement du shadow IT. Et c'est vraiment parce qu'aujourd'hui encore, les DSI sont overbookés et elles n'ont pas le temps de traiter le besoin de la RH qui a pas son outil, le besoin des achats qui n'ont pas leurs outils. Du coup, ces projets-là sont toujours décalés à plus tard. Pourtant, eux, ils doivent bosser, ils doivent produire des choses. Et c'est là où ils vont commencer à aller chercher des outils ou monter ces outils par eux-mêmes. Et ça pose plusieurs problèmes parce que déjà, une DSI, ça encadre la sécurité du système d'information. Pour ces entreprises-là, c'est très important parce que les fuites de données, on les connaît, hein, on sait ce que ça peut faire. Surtout aujourd'hui, où il y a beaucoup de demandes de rançon. On se croirait un petit peu au Far West, mais c'est vraiment ça. Il y a des entreprises qui subissent très régulièrement, parfois plusieurs fois par an, des demandes de rançon parce que il y a quelqu'un qui a fait du shadow IT, qui a pris un outil, un SaaS, qui a mis des données confidentielles dedans. Ça a été récupéré par une équipe de hackers qui disent nous, on a vos infos, on a des données, et on demande 50 000 euros, 100 000, 1 million pour pouvoir libérer vos données et les laisser partir tranquillement.
Ou alors, ils peuvent demander aussi de payer pour ne pas publier ces données, par exemple.
Oui.
T'as différents scénarios, ou alors, qui récupèrent tes données, ou alors t'as jusqu'à chiffrer les données, par exemple, sur ton disque dur.
Tout à fait.
Comme rançongiciel, j'adore cette traduction française, ransomware. Mais ça, c'est assez hardcore, ouais.
Ouais, c'est très courant. Et c'est quand même assez rare qu'une équipe de hackers rentre dans un système d'information par la grande porte, c'est-à-dire qu'ils rentrent en ayant creusé un trou dans le système d'information, en ayant traversé toutes les failles de sécurité. C'est très rare. La plupart du temps, c'est une erreur humaine. C'est quelqu'un qui a fait une bêtise, qui a utilisé un SaaS ou qui a ouvert un mail un peu bizarre.
Et, qui a ramassé une clé USB qui traînait.
Qui a mis dans son PC.
Ouais, voilà. Ça, c'est très fréquent. Mais il faut savoir que les hackers sont généralement... j'aime pas trop d'ailleurs le mot hacker, c'est pas le bon terme pour ça, mais on va dire les pirates malveillants, quoi. Ouais. Vraiment, sont souvent en fait assez paresseux, quoi. Ils vont essayer de trouver des solutions. En fait, c'est très compliqué. Et les mecs, ça les saoule, ceux qui sont là pour l'appât du gain et tout, d'aller contourner des systèmes d'information. Ils sont souvent bien, ils vont juste essayer de trouver le chaînon faible, qui est souvent l'humain toujours même. Donc ça, c'est intéressant. Mais donc ça, c'est effectivement un des risques du shadow IT qu'il faut bien préciser. Donc on comprend à la fois les enjeux. Et moi, ce que j'ajouterais là-dedans, mais je veux bien ton avis là-dessus, hein, c'est que les DSI, en fait, je trouve... c'est un vrai risque, hein. Il y a un vrai enjeu de sécurité. Il y a peut-être un mot d'ailleurs qu'on n'a pas évoqué, qui est peut-être un peu la notion de périmètre aussi. Enfin, c'est-à-dire que la DSI va essayer de bien contrôler le périmètre de, comme tu as dit, le système d'information englobe énormément de choses, et donc on va essayer de contrôler qu'il ne devienne pas non plus trop grand, quoi. Et donc dès que quelqu'un commence à faire du shadow IT, il fait grandir ce périmètre sans que la DSI le sache en plus. Donc ça veut dire que tu as des portes ouvertes potentiellement, enfin, qui font rentrer, quoi. Mais du coup, les DSI sont arrivés dans une posture où, en fait, aussi, je trouve que souvent, elles ont tendance à bloquer par défaut tout. Alors, à raison peut-être, parce que comme tu le dis, on vit quand même dans le Far West, mais il y a un moment où aussi, il faut trouver des solutions. C'est-à-dire que le shadow IT est en fait un symptôme, quoi, finalement, quelque part, d'un besoin. Et donc, comment on résout ? Et on n'aura pas forcément toute la réponse, tu vois. Et forcément, évidemment, le no-code peut être une réponse un petit peu. Mais comment on résout cette situation où, comment accélérer les... En fait, je dirais qu'il y a deux enjeux, mais je parle un peu... Tu l'as dit, les DSI sont surchargés. Et je pense qu'elles sont aussi surchargées parce qu'elles ont des choses à faire qui, en fait, qu'elles ne devraient pas faire. Par exemple, une DSI aujourd'hui, elle devrait plus faire un site internet. Elle devrait peut-être décider quel est l'outil qui est autorisé pour faire des sites internet, d'accord ? Elle devrait peut-être donner des bonnes pratiques, je ne sais pas, organiser les formations à cet outil. Mais le faire, non. Les développeurs dans une DSI, ils sont bien trop payés pour faire aujourd'hui un site internet. Ils ont pas en plus, ils n'aiment pas ça. Enfin, en général, franchement, un bon dev, faire juste un site aujourd'hui, ça ne l'intéresse pas. Il faut qu'il y ait de l'enjeu technique, etc., quoi.
Tout à fait.
Et donc voilà, et on est dans des contextes que tu connais beaucoup mieux que moi. Là, j'énonce un peu des choses qui peuvent paraître un peu évidentes. Comment tu vois un peu, toi, tu vois cette situation et puis peut-être l'avenir? Et là-dedans, tu vois, le low-code et le no-code, puisqu'il y a ces deux pans un peu.
Oui. Bah, déjà, je suis assez d'accord. Je pense que les DSI, il y a trop de choses qu'elles veulent prendre en main. Mais en même temps, je peux aussi comprendre parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'aller dans une boîte, enfin d'être dans une boîte et de se dire bah, je vais laisser à n'importe qui la possibilité de développer n'importe quoi. Parce que en vrai, c'est plutôt ça. On a parlé de Far West avec les pirates, mais ça peut être aussi le Far West en interne. C'est-à-dire que si tout le monde se met à développer tout et n'importe quoi sans aucun cadrage, bah, ça va vite devenir un peu le bazar quoi, dans la DSI. Parce qu'il y a quand même des normes, il y a des règles et puis il y a des process. Peut-être on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a des process à respecter. Il y a tout un tas de choses et de pratiques, de méthodes qu'il faut respecter. On peut pas dire juste ben j'arrive, je vais mettre un Airtable et c'est tout. C'est pas comme ça en fait qu'on résout une problématique IT. Il faut analyser un besoin et comment on répond à ce besoin en développant potentiellement un outil, mais pas forcément que ça. C'est pas les outils ne résolvent pas les problèmes. C'est juste des outils hein, concrètement. Et la DSI devrait quand même malgré tout laisser un petit peu de lest. Alors moi, ma vision, ça c'est vraiment ma vision, c'est d'avoir des utilisateurs clés, des key users, qui sont un peu des utilisateurs un peu avec des super pouvoirs qu'on va laisser dans les différents services. On définit 1, 2, 3 utilisateurs clés qui ont cet appétence justement pour l'informatique, qui se sont formés, parce que je pense qu'il faut se former malgré tout. C'est pas parce qu'on a du no-code qu'on peut faire n'importe quoi. Et une fois qu'on est formé, on peut se dire ok, il y a une problématique métier quelque part, il y a besoin de comprendre le besoin et de voir si on implémente une solution. Si c'est du no-code, ben, ça permet d'aller très vite. Si c'est du low-code, ça permet d'aller un peu plus vite et d'être plus proche de la DSI, en effet aujourd'hui en tout cas. Mais concrètement, je suis assez d'accord sur le fait que la DSI ne devrait pas tout prendre, ses développeurs sont beaucoup trop payé pour faire ça.
Et est-ce que, alors, la solution, on va parler un petit peu de low-code, justement, et de ton expérience là-dedans, et parce que moi, j'avais un petit peu affiché, on va dire, mon scepticisme sur le côté citizen developer, sur ces trucs-là. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, qui m'a interpellé sur Twitter un petit peu là-dessus. Il disait qu'il y avait, franchement, il y avait quand même aussi une réalité par rapport à ça. Donc, je serais curieux, justement, que toi, tu nous partages un petit peu ton expérience, mais aussi même ta vision un peu plus générale, même des choses que tu n'as pas forcément constatées. Mais est-ce que c'est possible justement d'avoir ces utilisateurs clés, de les mettre sur une plateforme et qui remplacent quelque part ou qui complètent un peu la DSI? Enfin, je sais pas, tu vois, quel est ton sentiment un peu sur ce rôle, tu vois, moi, je trouve que développeur citoyen, je suis désolé, mais franchement, c'est pas le mot adapté parce que dans les entreprises, les gens ne sont pas des citoyens.
Ce sont pas des citoyens, c'est ça. Mais c'est pas forcément une démocratie.
Voilà, mais c'est clair. Mais tu vois, justement, mais en tout cas, voilà, peut-être le bon mot, c'est peut-être utilisateur clé, justement. Enfin, voilà. Est-ce que les métiers peuvent vraiment s'emparer des outils techniques pour faire eux-mêmes, quoi?
Alors moi je l'ai vu, il y a vraiment des gens qui sont pas du tout dans le milieu de l'informatique qui vont faire des choses avec Excel qui sont incroyables, vraiment qui sont des vrais outils avec Excel, avec des macros et tout dans tous les sens.
Des fois des interfaces hyper jolies.
Ouais, des boutons, ouais. Vraiment tu te dis ok, ils ont fait une appli dans Excel. Ouais. Ça tourne très bien, on en discutait un petit peu tout à l'heure. Ces gens-là, franchement, ils ont les capacités, même s'ils n'ont pas forcément fait avec la bonne méthode, mais ils ont les capacités pour pouvoir compléter, pas remplacer, parce que c'est pas l'objectif, mais compléter en fait le travail de la DSI et apporter des outils dans leur périmètre. Tu parlais de périmètre, mais si par exemple je travaille pour la compta, développer un outil pour la compta, c'est OK. Développer un outil pour les RH, ça me semble un peu en dehors de mon périmètre, quoi. Donc, si on est quelqu'un qui serait formé aux méthodologies, à comment on construit une base de données, parce que c'est pas trivial. Oui, on peut mettre un Airtable, mais comment faire des...
Comment modéliser
la donnée, c'est pas quelque chose d'inné. C'est totalement contre-intuitif, d'ailleurs, souvent. Et du coup, il faut vraiment être formé. Comment on mène un projet, comment ensuite on fait cet accompagnement au changement, parce que finalement, soit on va apporter un nouvel outil, il faut que les gens adhèrent à cet outil, qu'ils l'utilisent, ou alors les faire désapprendre l'utilisation de leur ancien outil pour qu'ils rentrent dans le nouveau. Et tout ça, tu peux pas le faire si t'es pas formé. En fait, c'est vraiment un métier à part entière.
Là, quand tu parles d'outils, tu parles de l'outil qui serait créé.
Oui, la réponse.
Et donc les utilisateurs, parce que c'est, des fois, il y a un double niveau, quoi. Ouais. C'est-à-dire, t'as les utilisateurs finaux, on va dire, et puis t'as la personne qui va utiliser l'outil no-code pour créer un outil RH pour les...
Oui, les utilisateurs finaux. Voilà,
mais c'est juste pour clarifier un peu, parce que des fois, nous, ça nous paraît clair, mais pour que les gens puissent suivre
tout
un peu.
Tout à fait, je suis peut-être allé un peu vite. Mais en effet, c'est vraiment les utilisateurs finaux qui vont utiliser la solution no-code que tu auras mis, par exemple, grâce à un Airtable. Comment tu les formes, parce qu'il faut les former, il faut qu'ils puissent l'utiliser et que ça apporte quelque chose, pas juste que t'aies mis un outil, toi t'es content dans ton coin parce que t'as réussi à faire un truc un peu sympa, mais au final la valeur elle est pas là, quoi. Et c'est ça aussi le danger, en fait, de laisser à tout le monde dans l'entreprise les clés de l'IT.
Et alors toi t'as beaucoup travaillé avec un outil qui s'appelle ServiceNow.
Oui.
Le plus simple, c'est est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un peu, qu'est-ce que ça permet, parce que je pense que quasiment personne ne connaît, que moi j'ai découvert par hasard dans une mission il y a quelques années, dont j'avais jamais entendu parler, alors que comme tu me le disais, je crois que c'est un des seuls outils de cette catégorie qui est présent chez tous les acteurs, enfin toutes les sociétés du CAC 40, un truc comme ça.
Oui, c'est présent partout. Ouais. C'est un peu le Salesforce de l'IT. Salesforce, dans toutes les grosses boîtes, il y a du Salesforce. Je suis pas sûr qu'il y ait une grosse boîte qui n'a pas de Salesforce, même dans un petit coin. Ils ont toujours un petit bout de Salesforce. ServiceNow, c'est un peu la même chose, et c'est l'agrégateur, en fait, des données de l'IT. Donc, tu es dans une boîte, à l'échelle d'une très grosse entreprise, évidemment, ce serait pas inutile, mais ce serait vraiment un bazooka pour tuer une mouche dans une petite entreprise. Mais là, on est sur des flux de plusieurs dizaines de millions de données par jour. Ça permet, en fait, de d'agréger tous les référentiels de la boîte. Donc, par exemple, si tu as une boîte comme, je sais pas, qui a 50 000 personnes, la moitié peut-être ont un PC. Où est-ce qu'on renseigne ça dans cet outil? Justement, on va renseigner tous les PC, tous les téléphones, toute la flotte mobile, les voitures s'ils ont des voitures, tous les serveurs, tout ce qui est physique, même tout ce qui est immatériel, tous les failles, les protocoles de sécurité qui sont mis en place sont aussi renseignés là-dedans. Tous les flux à ouvrir sont dédiés.
Non, vas-y. J'allais juste compléter. Non, mais sur le côté référentiel, pour que les gens s'imaginent. Oh, là, je vais donner ma compréhension peut-être. Mais c'est l'ensemble. Enfin, c'est un peu comme des registres, quoi. C'est-à-dire que tu as un référentiel, ça va être les salariés. Oui. Tu as un référentiel, ça peut être tous les propriétés informatiques. Tu peux avoir un référentiel sur le catalogue de produits. Tout à fait. C'est un petit peu, ça représente tout ça et tout ça va se retrouver dans cet agrégateur.
Exactement. C'est vraiment un agrégateur de toutes les informations qui sont présentes dans la boîte. Et pourquoi on utilise ce type d'outil? Parce qu'en fait, on va aller chercher les informations où elles se trouvent. C'est rarement, en fait, la source de l'information. C'est plutôt un consommateur de l'information, et ça va permettre, en les agrégeant finalement, de pouvoir les distribuer de manière plus simple.
Ouais, d'en faire quelque chose, quoi, de les exploiter.
Exactement.
Pourquoi on dit que c'est un outil low code? Enfin, pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça rentre dans cette catégorie, par exemple?
Alors, c'est comme je disais au début, en fait, concrètement, on met en place des portails, donc ils sont des sites internet, comme des intranets, même si je crois qu'on dit plus trop ça aujourd'hui. Mais c'est vraiment, tu vas mettre à disposition déjà un portail de service à tes employés. Et au travers de ce portail, par exemple, tu vas pouvoir dire mon PC ne marche plus. Comment je sais qui tu es déjà quand tu te connectes? J'ai ton identité. Je sais quels sont les biens qui te sont rattachés. Si tu me dis j'ai un problème sur mon PC, je sais tout de suite quel est le PC qui est en cause. Donc ça accélère, en fait, toute la partie, tout le process, en fait, de gestion du flux d'informations. C'est-à-dire que je me suis connecté, on a déjà tout mon écosystème est déjà dans l'outil. Et tout ça n'a pas forcément été développé, c'est présent dans la plateforme de base. Moi, en tant que consultant technique ou fonctionnel, qu'est-ce que je viens faire? Je viens mettre une interface par-dessus, je viens mettre des process derrière qui vont dire, une fois que je me suis connecté, que j'ai dit que j'ai un problème avec mon PC, qu'est-ce qui se passe? Vers qui va cette information? Qui doit traiter? et ainsi de suite jusqu'à ce que la personne ait soit un nouveau PC, soit que son problème soit résolu.
Si je prends ton exemple et je caricature un peu, peut-être qu'il y a eu une époque où si tu avais un problème avec ton PC, tu allais dans un logiciel ou dans un portail qui était le portail de la maintenance, ouais. Tu allais renseigner, puis tu allais ouvrir un ticket et puis voilà. Et puis par exemple, eux, par derrière, si jamais ton ordi était vraiment complètement cassé, qu'ils ne pouvaient pas le réparer, devaient aller sur un autre outil qui était le portail des achats. Enfin, ou peut-être pas portail, enfin, tu vois, l'outil des achats. Enfin, moi, je me souviens, il y a 10 ans, c'était quand, entre 2008 et 2010, j'ai fait une mission à l'ambassade et on avait comme ça toute une suite d'outils, en fait, suivant ce que tu voulais faire, quoi, un truc pour le ticketing, etc. Et là, maintenant, l'enjeu, à travers d'un outil, on ne l'a pas précisé, mais c'est un outil SaaS, quoi.
C'est un SaaS, tout à fait.
Cloud, tout passe par le navigateur, etc. Oui. Et unifie tout ça. Et ça le permet, en fait, il y a une question de visuel, en fait, tout simplement, là. On est en train de dire que bah, c'est tout au même endroit. Mais c'est parce qu'en fait, derrière, toutes les données sont là et tout, la possibilité, en fait, comme tout au même endroit, de faire les flux, dire bah, si l'ordi il est cassé, au même endroit, tu peux dire que tu vas le commander. Et puis peut-être la logistique même va savoir être prévenue quand il sera arrivé, quoi.
Tout à fait, mais c'est exactement ça. En fait, ça va regrouper tous tes portails que tu avais avant. Donc, bah, pour reprendre l'exemple, ton PC est cassé ou en tout cas tu n'arrives pas à le faire fonctionner, il y a quelqu'un qui va venir vérifier, potentiellement, qui va se déplacer, qui va dire « Ok, ton PC il est cassé ». Peut-être que l'outil, directement, va aller vérifier s'il y a déjà un PC en stock dans le bâtiment pour éviter d'aller en commander un. S'il n'y en a pas, il va aller commander. Là, vraiment, on a tout un process qui va se dérouler et qui va gérer de manière exhaustive, le plus possible en tout cas, les différents cas de figure. Et qui va répondre à la problématique du client interne, puisque ce n'est pas forcément directement lié aux clients finaux, mais au client interne, qui va lui proposer une solution la plus rapide possible à son problème.
Juste avant qu'on vienne, justement, j'ai envie de creuser cette notion de process, et je vais expliquer pourquoi. Si on reprend juste pour finir un peu sur ce côté de citizen developer, etc. Donc voilà, là, on prend un exemple d'un outil qui est entreprise, qui est très connu, qui est très utilisé. Est-ce que, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la personne des RH, elle peut faire son outil de prise de notes dans ServiceNow ?
Aujourd'hui, non. Ce sera pas possible parce que c'est une grosse plateforme. Il faut la connaître, en fait. Il faut savoir quelle est la table dans laquelle sont rangées telles informations. Comment faire un... Non, elle ne va pas pouvoir toute seule, en tout cas sans formation, réussir à faire son appli, parce qu'il faut vraiment aller creuser dans l'outil. Je crois que c'était Jason qui disait ça. L'intelligence est cachée dans la petite roue crantée. C'est pas quelque chose qui est vraiment trivial. Il faut vraiment une formation à l'outil pour pouvoir faire quelque chose.
Donc, éventuellement, pouvoir mandater un consultant pour le faire, quoi. Et ce consultant, parce que c'est quand même pour rester, on reste quand même dans le rapport avec le low-code, le consultant, lui, va pouvoir le faire sans avoir à tout programmer.
Moi, ce que je propose, parce que je fais aussi, je coach un peu des personnes qui sont en reconversion, et je leur dis, si vous avez développé, c'est quelque chose que vous avez mal fait. C'est qu'il y a eu un système que vous avez loupé, il y a quelque chose que vous avez... Alors évidemment, des fois on est obligé, mais moi j'aime bien être un petit peu clivant. Mais la plupart du temps, on peut résoudre une problématique dans ce type d'outil sans avoir à développer quoi que ce soit. Il y a un Zapier intégré, alors pas un Webflow, mais quand même pas loin, parce que
constructeur d'interface web.
Mis à part quelques petits scripts de temps en temps pour pouvoir vraiment aller un cran plus loin, mais grosso modo, on peut quasiment tout faire aujourd'hui en no-code. Ouais, c'est ça.
Et parce que tu me disais qu'ils avaient une volonté même d'inclure vraiment un outil no-code, quoi.
Alors, il y a quelque chose qui est en cours. Il n'y a pas trop de communication dessus qui s'appelle le ServiceNow App Studio, si je dis pas de bêtises. Je vais si mes potes de ServiceNow m'écoutent, désolé. Mais il y a un studio qui existe et qui est fait pour les citizen developers. Il y a d'ailleurs une formation ou plutôt quelques tutos pour les citizen developers. Donc ils sont quand même en train d'aller là-dessus, mais c'est pas encore vraiment... Il n'y a pas encore de grosses machines de guerre commerciales derrière là-dessus.
Okay. Non, mais c'est, tu vois, enfin, on va un petit peu clore le sujet là parce qu'on pourra en parler longtemps, mais et c'était pas forcément ce dont je voulais plus parler avec toi, mais j'avais envie de profiter un peu de ton expérience pour illustrer un dernier point sur ce sujet du low code que j'ai qu'on a abordé du coup dans deux épisodes, l'approche très différente de Cube avec Bubble, ce que Thomas Villarène nous a partagé sur bon déjà évidemment la plateforme de Payfit, mais aussi en général sur les plateformes low code. Et puis là, vraiment, le côté vraiment très entreprise, les outils d'entreprise. Et voilà, et on pourra encore, je le ferai probablement plus tard. On trouve, si je trouve vraiment des citizen développeurs, et voilà, il y a plein d'outils. D'ailleurs, ça, c'est les gros outils en quelque sorte. Et puis, il y a aussi plein de nouveaux outils qui sont un petit peu dans notre écosystème no code, qui attaquent aussi ces problématiques-là. Un des épisodes qui sortira, je pense, après celui-là, ça sera avec les gens de Xar, par exemple, qui proposent aussi quelque chose un petit peu. Toujours pour résoudre cette problématique de pouvoir, en interne dans une entreprise, ne pas avoir que les gens de la DSI qui sont en capacité de créer des outils, quoi, de proposer des outils. Voilà, bon, ça, on en reparlera, c'était hyper intéressant. On arrive sur un sujet, tu as prononcé le mot pas mal de fois, le côté process. Et c'est là où on va revenir un peu aussi plus concret sur le no-code. J'espère qu'on n'aura pas perdu tout le monde encore. Mais tu vois, sur ce côté... En fait, quand on fait du Zapier, du Integromat, du Airtable, ça, quand on est vraiment dans un contexte d'ops, de no-code ops, comme on aime dire, il y a un truc, je pense, que les gens ne font pas assez, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Et en fait, là-dedans, il y a un truc qui est clé, tu l'as évoqué déjà plusieurs fois, c'est cette notion de process, vraiment de flux de données. Voilà, et j'avais envie qu'on en parle un peu et de voir un peu comment on peut un petit peu vulgariser ça. Puisque c'est un truc qui, toi, je pense, te paraît évident, que tu fais dans ton quotidien, tu as parlé de spécification. Comment les gens peuvent s'approprier ça? Quand je dis les gens, les no-codeurs, les no-codeuses, qui n'ont pas un background technique, mais qui, malgré tout, sont dans cette dynamique qu'on essaye tous d'impulser, de devenir un peu plus productif, etc.
Comparé à tout ce qui est la prise en main des outils, les bonnes pratiques des outils, ça, la partie process, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études incroyables pour pouvoir mettre en place un process. Demain, tu veux mettre un process pour gérer ton agenda. C'est l'exemple qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est tout à fait possible avec des outils très simples et même sans outils. Aujourd'hui, un process, c'est quoi? C'est vraiment un point d'entrée. Donc, quelle est la situation qui va déclencher en fait une suite d'actions? Quelles sont ensuite les actions qui vont se passer à l'intérieur de ce processus et quelle est la valeur qui arrivera en sortie. Donc potentiellement, quand je téléphone à mon médecin ou je prends un médecin sur Doctolib, peu importe si on est plutôt numérique ou pas, une fois que j'ai appuyé sur le bouton pour pouvoir prendre le rendez-vous ou que j'ai raccroché avec la personne de l'accueil, qu'est-ce qui se passe derrière? Et tout ça, on peut le mettre en place nous-mêmes, on peut définir en fait les process qui vont nous permettre de ne pas oublier que dans 3 semaines, on a un rendez-vous. Et tout ça, on peut l'écrire, on peut faire des schémas qui vont nous permettre de se dire, ok, à chaque fois que je vais prendre un rendez-vous, il faut que je pense à faire telle, telle, telle et telle action pour que à J-1, il y a mon agenda qui me dise, attention, t'avais prévu un rendez-vous à telle heure, faut pas le louper.
Donc par exemple ces actions, juste pour continuer, c'est un très bon exemple, c'est que dès que j'ai raccroché, comme tu dis, ça c'est le point de départ, je vais ouvrir mon application d'agenda sur mon téléphone, je vais mettre un rendez-vous et je vais régler, parce que c'est un rendez-vous médical par exemple, un rappel à deux jours avant.
C'est ça.
On pourrait se dire par exemple, d'ailleurs il pourrait y avoir dans ce process un embranchement, c'est-à-dire, si c'est un rendez-vous qui n'est pas médical, c'est moins important, je me fais un rappel 2 heures avant. Que des choses comme ça, et effectivement là ça peut paraître un exemple un peu trivial, et pourtant c'est finalement, si on réfléchit bien, on va dire dans notre vie professionnelle mais même personnelle, mais pas pousser trop loin, les gens vont nous prendre pour des psychopathes des process, mais dans notre vie professionnelle en tout cas, on a plein de choses comme ça et il faut les détailler, oui, pour pouvoir ensuite les implémenter, parce que je pense que tu vois ce que tu soulignes là, c'est que tu l'as dit, d'abord peut-être c'est des choses qu'on fait à la main, c'est pas grave, c'est peut-être je le mets, je l'écris dans mon agenda papier, quoi.
Tout à fait.
Sauf que du coup, là, j'ai pas de rappel. Je peux pas avoir de rappel.
C'est ça.
Et donc, c'est là où, une fois qu'on a fait le process, qu'on a réfléchi à toutes ces actions, après, on peut réfléchir qu'est-ce que je peux automatiser ou non.
Et... Oui. Concrètement, on n'est même pas obligé d'aller dans un outil. Si toi, tous les jours, tu vas regarder ton agenda parce que c'est ton rituel, que tous les matins, tu ouvres ton agenda et que tu regardes ce que tu as à faire dans la journée, et ben, que tu le fasses sur un papier, ben, c'est pas grave en fait. Puisque c'est ça, c'est ta solution à toi, c'est de le faire sur un papier parce que dans ton rituel, tu vas ouvrir tous les jours ton agenda et tu vas voir ce que tu as à faire. Mais si tu veux aller si tu veux être un peu plus dans le numérique, donc en effet, tu vas peut-être te lancer dans une automatisation qui va aller te rappeler tous les jours si tu as quelque chose à faire ou pas, d'ailleurs.
Ouais. Et il y a, si tu veux être dans le numérique, mais je dirais aussi, si on élargit et qu'on dans le contexte pro, il y a aussi ce passage à l'échelle, quoi. C'est-à-dire aussi, si tu dois commencer à prendre beaucoup d'agendas, beaucoup de rendez-vous, tu vas être sûr d'en rater aucun. Peut-être c'est là aussi où tu vas devoir commencer à te poser la question. Et c'est pour ça que souvent, les gens viennent nous voir, Zapier et tout, c'est génial et tout, on est les premiers à le dire. Mais il faut pas automatiser un truc, par exemple, que tu vas faire que deux fois, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, tu vois, quelque part, les choses, c'est bien de les faire une fois, deux fois, voir si elles se reproduisent, aussi pour bien les comprendre, modéliser ce process, et puis après, faire l'automatisation, quoi.
Tout à fait. Et c'est très important dans le contexte de l'entreprise. Et comme tu l'as dit, pour le passage à l'échelle, déjà le faire soi-même, ça te permet de vraiment savoir, le faire à la main, ça te permet de savoir ce que tu vas faire, ce que tu veux en faire. Puisque concrètement, bah, si tu n'as pas besoin d'avoir un rappel parce que tu as une très bonne mémoire, bah, on s'en fiche de l'automatiser finalement, parce que tu vas t'en rappeler. Et c'est insignifiant de faire une automatisation. C'est peut-être même de la perte de temps. Tu vas peut-être passer plus de temps à réfléchir à comment faire ton automatisation que finalement le résultat qui va en découler. Mais dans le contexte d'une entreprise, c'est très important. Il y a tout un tas d'enjeux autour des process parce que souvent, ce qu'on voit dans les offres de job, dans les missions, on te dit « je veux mettre en place Airtable ». Enfin, moi, quand je vois ça, je me dis non, ça, c'est la solution, c'est pas le besoin, en fait. Le besoin, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux mettre en place Airtable? Quel est le problème qui fait que tu aies envie de mettre Airtable en place? Ou de mettre un outil? Puisque finalement, Airtable, c'est peut-être pas la solution qui sera adaptée à toi. Peut-être que ta solution, c'est de mettre Glide ou de faire un Bubble. S'ils ont un gros mot, on peut...
Ou d'utiliser Excel, en gros. Plus gros
ou d'utiliser mot. Excel, évidemment. Mais concrètement, on part très souvent aujourd'hui de la solution, c'est je veux mettre Airtable avant même de savoir quel est le besoin. Et ce besoin, c'est toujours un process parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui dans une entreprise est un process. Et concrètement, moi, ce que je préfère dire, moi, je challenge toujours mes clients en leur demandant tout le temps pourquoi. Pourquoi ? C'est quoi ton besoin ? Qu'est-ce que tu veux en faire ? Quel est l'objectif ? Et la plupart du temps, quand tu leur demandes déjà le premier pourquoi Airtable ? Ben, déjà, ils lèvent les épaules ou tu les vois perdus, ils réfléchissent. Mais forcément, parce que Airtable, parce que c'est l'outil du moment, mais concrètement, c'est les outils ne...
J'ai vu une vidéo de contournement, Erwan, il était très convaincant et donc on a envie de mettre Airtable.
Oui, ben, mais c'est vrai.
Non, c'est vrai qu'Erwan est convaincant. Ça arrive un peu, enfin, et c'est vrai que des fois. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dirais. Et j'ajouterais même un truc, c'est que des fois, le fait de un petit peu se creuser la tête sur c'est quoi le process. Peut-être que déjà il y a un premier travail, c'est aussi tu peux le simplifier ton process. Il y a des gens des fois qui veulent faire des choses beaucoup trop compliquées. En fait, de se dire déjà de challenger ça, tu vois, comme tu le fais, challenger, parlons-en. Ils vont te dire ah ouais, bah, je veux faire ça, ça et ça. Et puis tant qu'à faire, comme on est en train de faire ça, bah, je voudrais aussi faire ça. Et tu vois, je sais pas, dupliquer l'information parce qu'on sait jamais. Non, bah, c'est pas la peine quoi. Parce que si tu le faisais à la main, tu dupliquerais pas l'information, ça te prendrait du temps. Alors, c'est pas parce que c'est numérique qu'on va aussi faire. Plus qu'il n'en faut, et c'est vraiment, et c'est là où c'est important, encore une fois on revient, de avoir fait soi-même pour voir un petit peu, identifier ce qui prend du temps, ce qui est primordial, ce qui n'a pas d'intérêt peut-être, et ça c'est vraiment très très important quoi.
Bah, pour moi le process, encore une fois, comme le SI, c'est vraiment c'est l'essence en fait de c'est vraiment le cœur de la boîte quand t'es en entreprise en tout cas. Et le fait d'identifier ces process, de les écrire, déjà, l'enjeu dont je parlais tout à l'heure, que je n'ai pas encore évoqué, c'est le fait que quand tu vas mettre en place des process, tu vas mieux comprendre ton propre business, ce que tu dois faire. En l'écrivant, en fait, tu comprends mieux ce que tu es en train de faire. De se dire, ben, avant, peut-être que tu prenais tout sur un papier crayon, et quand tu avais un rendez-vous, ben, okay, tu l'écrivais, puis tu appelais la personne, puis tu faisais un rendez-vous, et puis etc. Si tu le décris, en fait, ça devient plus concret. Et si demain, bah, tu as plus de rendez-vous que tu ne peux en prendre, bah, tu peux recruter quelqu'un et lui dire bah, « voilà ce qu'il y a à faire
». Absolument.
Et tu peux pas faire ça si tu fais pas de... Enfin, tu peux le faire si tu n'as pas de process, mais ça va te bouffer du temps. C'est pas pour ça que tu as pris la personne, c'est pas pour qu'elle te bouffe du temps, c'est au contraire pour qu'elle puisse t'en laisser pour que tu fasses autre chose. Et c'est qu'en mettant en place des process que tu vas pouvoir bah, passer à l'échelle, même peu importe que l'échelle ce soit de prendre 2 clients de plus ou 1000 clients de plus, mais la mise en place de processus, ça t'augmente ton efficacité. C'est-à-dire que ta manière de produire va devenir plus efficace, tu vas produire plus. Ensuite, on parlera peut-être, si on a le temps, d'une autre notion qui est l'efficience, mais ça, c'est un petit peu plus loin.
Non, mais on peut, disons un mot si tu veux, mais ce que j'ajouterais juste là, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a aussi, je trouve, un certain confort à trouver aussi dans le fait d'être un peu guidé, en fait. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu sais ce que tu dois faire, dans quel ordre. Tu vois, tu te dis pas, ah bah tiens, là j'ai un nouveau rendez-vous, bon alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que là je vais essayer de le retenir, ou est-ce que je vais le mettre dans mon agenda, ou est-ce que je le mets dans mon téléphone? Il y a ce côté un peu systématique, qui est que moi, alors peut-être c'est aussi, j'ai un peu nerd de tout ça, mais je trouve confortable, et évidemment d'autant plus quand c'est automatisé ou semi-automatisé, quoi. Donc, si tu veux dire, nous on aime bien distinguer efficacité et efficience, alors ça m'intéresse que t'en parles.
Mais le systématiser en fait son business, on le voit beaucoup sur internet, quand tu traînes sur YouTube, les infopreneurs créer des systèmes. Oui, mais créer un système, ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, écrire ses process, et c'est tout en fait. Une fois que tu as écrit tes process, ensuite les intégrer, les outils qui vont te permettre de les faire tourner, c'est pas ça qui crée ton système. Ton système, c'est vraiment l'enchaînement de tes process, parce que c'est plusieurs process qui peuvent être collés les uns aux autres. Mais concrètement, créer un système, c'est très important pour pouvoir passer à l'échelle, parce que donc tu vas devenir plus efficace. Et ensuite, les process, en fait, ça a une vie. C'est pas quelque chose que tu construis à l'instant T et qu'ensuite tu dis c'est terminé. En fait, il faut tout le temps les revoir, tout le temps... Alors, je vais réutiliser le mot challenger, j'arrive pas à trouver un équivalent français, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Tu vas tout le temps les remettre en cause, voilà. Tu vas tout le temps les remettre en cause, et c'est cette remise en cause qui va t'apporter l'efficience. Parce qu'une fois que tu as réussi à faire efficace, c'est-à-dire à atteindre ton objectif, maintenant, c'est comment tu vas réduire le temps que tu vas mettre pour arriver à cet objectif. L'efficacité, c'est d'arriver à faire quelque chose. L'efficience, c'est arriver à le faire mieux.
Très, très intéressant et très pertinent. Est-ce que tu aurais quelques conseils, on va dire un petit peu... Enfin, je pense que tu as déjà bien expliqué un peu le principe, mais je sais pas, pour des gens, tu vois, qui nous écoutent, qui bidouillent un peu à Cartable ou qui ont suivi nos formations ou quoi, mais justement qui voudraient essayer, donc, quelque part, de mieux se servir d'outils, parce que c'est pas que l'outil, mais tu vois, d'améliorer un peu leurs ops, tu vois, comment commencer par là?
Ben, déjà, le premier conseil, c'est vraiment d'écrire. Hein, dès que vous avez quelque chose en tête, dès que vous avez un process, il faut l'écrire.
Quand tu dis écrire, est-ce que c'est matérialiser, dessiner ou écrire vraiment sous forme de phrase? Enfin, c'est bête, hein, mais tu vois, comment ça...
Oui, c'est quoi raison, que tu produis? Très bonne question. Non, en fait, c'est selon en fait votre... c'est selon vous. Moi, j'aime bien... Je dessine extrêmement mal, comme un enfant de 6 ans, mais j'adore schématiser, j'adore faire des dessins sur des tableaux, parce que ma pensée... J'arrive mieux à retranscrire ma pensée dans un dessin que dans des lignes, en fait, tout simplement. Mais évidemment, si vous faites des... si vous l'écrivez, et que vous l'écrivez de manière lisible pour les autres, parce que c'est finalement surtout pour les autres, c'est vraiment le premier pas. Et d'ailleurs, même, c'est un autre conseil, il ne faut pas soi-même écrire les process. Pourquoi? Parce que vous avez une idée en tête, ok, mais en fait, c'est pas forcément vous qui allez réaliser l'action, et c'est mieux que ce soit la personne qui réalise l'action qui fasse le process, qui écrive, en tout cas, qui le matérialise ce process. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va aussi avoir une idée plus proche du terrain. Donc si vous êtes un patron d'une boîte, c'est pas forcément vous qui êtes directement concerné par l'action du process, mais la personne qui le réalise, elle a la conscience de toutes les problématiques qu'elle a en déroulant ce process. Donc si c'est elle qui l'écrit, bah, ce sera plus clair pour quelqu'un qui va venir derrière travailler avec elle, que pour vous, finalement, vous êtes un peu loin de toutes les problématiques.
Ouais. Non, c'est un bon point. Je réfléchissais juste en même temps un peu à des... Pour moi, souvent, ce qui... Enfin, c'est peut-être aussi parce que j'avais vu ça à la fac et c'est un peu resté gravé, c'est le côté un peu logigramme, diagramme, enfin, montrer comme ça un peu les étapes matérialisées, point de départ, point d'arrivée, les embranchements et tout. Je sais pas si toi, tu fais des trucs comme ça ou... Enfin...
En fait, il y a une norme qu'on appelle BPMN. J'ai plus la phrase complète en tête, mais c'est la norme qui permet à toutes les personnes qui font partie de cette secte un petit peu de matérialisation des process de comprendre en fait quand on écrit. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque là pour décrire un process, mais en effet, dès que vous êtes en capacité déjà de faire un petit dessin ou d'écrire de manière claire ce qui doit se passer dans le process, c'est déjà suffisant. En effet, on peut aller plus loin, on peut modéliser de la bonne manière. Mais déjà, si vous matérialisez ce que vous devez faire, ce qu'on doit faire dans le process, c'est déjà un très grand pas. Il y a peu de gens en fait qui le font vraiment correctement.
Il y a pour illustrer ça, j'invite les gens à regarder peut-être le meetup Notion qui avait été fait où Shuba m'avait partagé son process de création de vidéos YouTube. Et donc où il avait matérialisé donc je crois qu'il avait, je sais pas, après bon les outils c'est, il y en a plein, on peut faire ça dans Google Slides, on peut faire, je pense peut-être qu'il avait utilisé Whimsical, enfin Miro, n'importe, bon on s'en fout, mais c'est enfin je dis on s'en fout et en même temps c'est bien aussi d'être un truc avec lequel on est à l'aise pour pas se dire ouais ça va me faire chier de faire le process, donc mais bon il y a toujours un petit peu cette question d'outils hein, tout le temps. Mais et c'était franchement c'était hyper intéressant, déjà son process était intéressant, il montrait bien et donc ça matérialisait bien les choses qu'il faisait à la main, les interactions qu'il y avait avec son monteur, voilà, tous les étapes. Et lui, ça lui permettait de scaler, hein, parce que c'était un petit peu le sujet aussi de son intervention. Comment passer à l'échelle, passer de... Je sais plus, il faisait une vidéo, deux, trois par mois, puis à deux par semaine, en étant efficace, et puis en se cassant pas trop la tête et tout. Et donc, c'était à la fois intéressant sur comment on fait une vidéo YouTube, mais juste sur vraiment, c'est un process, quoi. Enfin, c'est un process comme un autre, quoi. Okay.
Mais c'est vraiment ce qui lui a permis de passer à l'échelle, c'est de pouvoir déléguer, en fait, en écrivant son process, il s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'il peut déléguer, qu'il n'est pas obligé de faire lui-même. Et en ayant écrit ce process, ça lui permet de pouvoir déléguer à une ou plusieurs personnes, tout ou partie, de ce processus. Et c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir faire ça.
Exactement, c'est ce que tu soulignes, enfin tu l'as déjà tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment aussi ce... Il ne faut pas confondre process et automatisation.
Totalement.
Et c'est quelque chose qui est plus global. Il peut y avoir un bout qui est automatisé, un bout qui est semi-automatisé, un bout qui est manuel. Mais voilà, ce qui est important, c'est cet enchaînement d'actions et c'est un peu ce guide, quoi, ces rails qui permettent d'aller au bout. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment des questions que tout le monde doit se poser. Et j'aime bien aussi un peu cet aspect documentaire pour pouvoir déléguer, pour pouvoir aussi être remplacé en cas de vacances. Moi, je sais que, par exemple, nous, il y a des choses qu'on documente, enfin, on essaie de tout documenter, mais certaines choses, j'ai documenté pour que, quand je pars en vacances, Erwan puisse faire à ma place certaines choses. Voilà, on a pas mal de process automatisés. On a des choses qui sont automatisées qui juste tournent sur nous, des choses semi-automatisées. Par exemple, quand on génère nos factures, il y a une étape qu'on doit faire à la main. C'est moi qui le fais, mais si je suis pas là, Erwan peut le faire. Il y a une page Notion où le process est décrit. Et il y a, là en l'occurrence, parce que c'est un truc qui est complètement numérique, donc il y a aussi une petite vidéo, il y a un screencast qui montre les étapes où j'explique ce qu'il faut faire, quoi.
D'accord. Alors moi, tu vois, j'évite au maximum de faire c'est un peu bête ce que je veux dire, mais de faire des vidéos, pourquoi ? Parce que les vidéos, c'est très difficile à modifier. Donc
je l'ai fait déjà 4 fois cette vidéo, je te confirme.
Voilà. C'est très chiant et souvent en plus du coup on hésite à le faire et voire des fois on le fait pas parce que il y a trop de choses à modifier. C'est plus simple à faire mais c'est plus difficile à maintenir. Moi je préfère vraiment écrire ou faire des dessins parce que un dessin ça se modifie très vite. Écrire c'est peut-être un peu plus long parce que il y a peut-être un schéma de pensée différent pour que ce soit clair pour la personne. C'est tout de suite clair une vidéo. Alors qu'écrire, c'est pas forcément tout de suite clair, il faut bien réfléchir. Mais après, si on a quelque chose à modifier, c'est beaucoup plus simple que quand
c'est
on
pas
fait
faux. Ouais. D'ailleurs,
vidéo.
Tu vois, là qu'on en parle, si je suis tout à fait honnête, en fait, la dernière version, elle est pas à jour. Parce que, entre temps, j'ai modifié quelque chose, donc d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je refasse la vidéo. Non, c'est un bon point. C'est un bon point. Après, encore une fois, je pense que ça dépend un petit peu aussi de ce qu'on a à montrer.
Tout à fait, oui.
Là, nous, c'est des choses. Parce qu'il y a la vidéo plus la voix, quoi. C'est-à-dire, je commente aussi ce que je fais. Et, mais ouais, non, c'est. Il faut vraiment voir ce qui s'adapte, ce qui est adapté aux collaborateurs. Enfin, c'est tout un... mais finalement, je crois que le point que tu soulèves, qui est, je trouve, encore plus important que les moyens, c'est la mise à jour, c'est la tenue à jour. Et de se dire que de toute façon, dans tous les cas, les process aussi sont un peu mouvants, généralement.
Totalement.
Et quand il se passe quelque chose, et ce n'est pas un problème, au contraire, si on peut l'améliorer, sur l'amélioration continue, il faut juste tenir à jour la documentation qui va avec, quoi.
Mais clairement, et c'est un enjeu majeur, en fait, la gestion de la connaissance. Alors, je vais utiliser encore un acronyme un peu barbare, mais moi, je suis certifié ITIL, et ITIL, c'est le Lean pour les process. Et grosso modo, je simplifie, mais c'est à peu près ça. Et concrètement, dans ce corpus de bonnes pratiques, on a la gestion de la connaissance, comment on maintient la connaissance, et le processus, ça fait partie de la connaissance. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut laisser de côté et de se dire, bah, ok, je l'ai fait, c'est terminé. Vraiment, il faut le revoir, le remettre en cause tout le temps. Même, alors peut-être pas tous les mois, ça dépend de ce qu'on fait, mais si vous avez un process qui a forte valeur ajoutée, vraiment, tous les trimestres, il faut le revoir, il faut le remettre en cause, le refaire, même peut-être tout casser, tout refaire régulièrement pour se poser les bonnes questions et gagner justement ce qu'on disait tout à l'heure, un peu d'efficience, parce que c'est qu'en faisant qu'on apprend. Et plus on va dérouler un process, plus on va être mature dans l'utilisation de ce process, plus on va voir que ce qu'on fait, finalement, peut être amélioré. Et comment l'améliorer ? C'est justement en faisant ce qu'on appelle l'amélioration continue. Et c'est revoir ces process tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ouais, non, c'est un très bon point, parce qu'en plus, le contexte aussi peut évoluer. Oui. Les outils éventuellement qu'on utilise aussi peuvent évoluer. Permettre des choses. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des choses qu'on... Bon, là, je rentre un petit peu dans la technique, mais bon, c'est pour illustrer, c'est un peu un bout, mais il y a des choses, des automatisations qu'on avait avec Zapier, où on contournait un peu, on faisait des trucs, et puis entre-temps, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie, qui nous a permis, par exemple, d'amener le process un peu plus loin et d'enlever encore une autre étape manuelle ou des choses comme ça. Donc, ça peut être... C'est pas sur le fond, c'est plus sur l'implémentation, mais tout doit être un peu challengé.
C'est,
quoi.
C'est l'efficience. Vous avez gagné de la productivité. Ouais. Sans rien dépenser de plus, finalement.
Ouais, non, carrément. Ouais. Non, bah écoute, c'est très intéressant. Nous, c'est un sujet, quand je dis nous, toi et moi, enfin, qu'on a envie de creuser un peu. Donc ça, je dis ça plus pour les auditeurs. Je suis assez curieux d'avoir un petit peu les retours des auditeurs sur ces process. Est-ce que ça vaut le coup de peut-être faire une petite formation sur le sujet. Enfin voilà, nous, c'est vrai qu'on a pas mal d'idées. Donc, on fera quoi qu'il arrive, hein, de toute façon. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un petit peu des avis des gens. Mais voilà, donc si vous écoutez et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire si vous aimeriez en savoir plus sur ça, des choses plus concrètes, des exercices, de la formation, des choses visuelles pour comprendre comment on fait, par exemple, quelles questions se poser, peut-être un petit peu des frameworks aussi, un petit peu de... Moi, je pense que la phase amont est très importante. C'est celle qui est la plus négligée. Peut-être la documentation aussi, donc donner peut-être des templates Notion, bon, des choses simples. Hein. Là, on parle peut-être d'un contexte pas à pas de, justement de grandes entreprises où tu as pu évoluer, mais là, pour des freelances, des TPE, des PME, vraiment aider les gens qui en ont le plus besoin, qui ne sont pas du tout familiers avec ça. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à nous dire. Et puis on va continuer à creuser ce sujet ensemble. Ça va être très intéressant. Pour terminer, on est un peu dépassé, mais j'avais juste envie de te poser une dernière petite question, un petit peu savoir toi, pour en venir quand même aussi au no-code et très actif dans la communauté, mais toi un peu c'est quoi les outils que tu utilises, que tu aimes bien, tu vois, voilà, pour qu'on s'en sache un petit peu plus sur toi, parce que ce que je vois, tu vois, de l'extérieur, c'est que tu t'intéresses un peu à tout, t'es un petit peu actif un peu partout, tu vois, sur le Slack, est-ce que, je sais pas, voilà, un petit peu...
Comme dans mes études et dans mon choix de carrière d'ailleurs, j'aime bien utiliser les outils que les autres n'aiment pas ou qui sont moins, en tout cas mainstream, qui sont moins dans l'air du temps,
à la mode peut-être.
À la mode, ouais. Bien vu. Donc moi, j'utilise beaucoup Coda en ce moment, qui est, alors pour moi, un niveau au-dessus de Notion. Je vais me faire beaucoup taper dessus par la communauté, mais désolé, je le pense vraiment. Coda, pour moi, c'est vraiment l'enfant caché de Notion et de Bubble. On peut vraiment faire des applis avec Coda, et assez puissante en plus. Donc c'est là-dessus que je travaille beaucoup. Et je fais pas mal de Airtable, notamment parce que je fais de la formation sur Airtable. Integromat, beaucoup, parce que je trouve ça génial et que l'automatisation, ça fait partie de mes passions aussi. J'adore vraiment ça. C'est pas que mon métier, c'est aussi quelque chose que j'aime. Et c'est à peu près tout, là. Je pense que Airtable, Coda, alors. J'utilisais beaucoup Fiverr, vous m'avez beaucoup entendu l'utiliser, enfin parler, mais ils m'ont un petit peu déçu. J'ai parlé avec le patron. Et il y a des limites qui veulent pas en fait faire sauter. Et du coup, c'est ce qui m'a amené vers Coda, qui est vraiment un outil qui est totalement ouvert. Le système de pricing est juste magique. Alors ça va faire tellement changer. Mais aujourd'hui, c'est très simple de pouvoir faire un outil qui est utilisé par des dizaines de personnes sans se ruiner, quoi, concrètement.
Ouais, Coda, je trouve que le pricing et tout, alors j'ai plus exactement en tête, mais il est quand même très abordable. C'est quelque chose un peu de l'ordre de Notion, enfin, ou de ces outils, où tu as un prix relativement fixe, t'as pas de, ça dépend pas trop de ton nombre d'utilisateurs, etc. On n'est pas du tout sur des choses même un peu comme Stacker, qui est très, qui est quand même pas donné, enfin,
Oui, c'est très cher.
un peu, ou même les applications internes de Glide. Enfin, bref, on va pas rentrer trop sur la question du pricing, c'est un vaste débat. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien les outils très flexibles, et qui néanmoins ont un pricing relativement fixe, et tu vois, où tu sais un peu où tu vas, quoi. Le fixe, lisible.
Ouais, c'est très simple, Coda. Je crois que c'est 10 euros. Alors, le premier plan, c'est 10 euros par ce qu'ils appellent DocMaker. En fait, Coda, ça fonctionne en document. Donc le document, c'est vraiment ton un peu le workspace dans Notion. Tu as aussi un workspace de document dans Coda, mais vraiment
C'est comme une page dans Notion,
c'est
quoi.
comme une oui comme une page, c'est ça, c'est ce que je cherchais comme mot.
C'est
C'est comme une
c'est un
page
peu
de document.
l'entité primaire, quoi.
C'est l'entité primaire, exactement. Et tu payes par personne qui peut modifier. Donc ça, c'est comme dans Notion, tu veux dire. Et tu as autant de guests que tu veux, tu peux, enfin de visiteurs que tu veux. Tu peux avoir 1000 personnes qui utilisent ta page et n'avoir qu'un seul utilisateur payant, finalement.
Ouais, comme tu le disais un peu quand tu es un peu l'enfant aussi de Bubble, c'est que ta page, quand tu la publies, à la différence d'une page Notion qui est bon, juste une page statique de texte, etc., une page Coda, c'est une mini-application quelque part,
Ah,
quoi.
c'est vraiment une application. Vraiment, on fait une. Là, ce que je fais des fois avec ServiceNow, où je peux le refaire avec Coda, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dessus, parce que je me suis dit, il y a vraiment un créneau à prendre côté entreprise sur ce type d'outil qui est un mix entre quelque chose d'assez simple et finalement quelque chose de plutôt puissant, sans être aussi joli que ce que tu peux faire avec Bubble, évidemment, mais dans un contexte d'entreprise, c'est totalement honnête.
Oui, et puis quand tu le maîtrises bien, tu peux aller très vite aussi. Justement, parce qu'il y a moins de choses à personnaliser, etc. C'est pas, t'es pas sur un bubble, tu vas pas choisir les couleurs de tes boutons et tout. Mais par contre, bon, tu peux dérouler, bah, un peu comme dans Notion, t'as ce truc, en plus avec les commandes et tout, où tu vas mettre tes éléments très vite et créer tes interactions.
Et t'as de l'automatisation directement à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment. Moi, je trouve que cet outil, il est parfait pour le moment. Donc, on va voir, je vais continuer de le creuser. Mais c'est mon coup de cœur du moment.
Non, mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de secret non plus. On le sait, c'est un outil qui est très populaire aux États-Unis, qui est très peu en dehors. On ne sait pas trop pourquoi. Dans la communauté, il y a très peu de gens qui s'en servent. On a fait pour. Si certains écoutent et ne voient pas à quoi ça ressemble, il y a eu une no-code session avec Ronald qui avait fait du Coda il y a quelques temps. Donc voilà, sur la chaîne de No-Code France, voilà, une petite vidéo. Il faudra peut-être en refaire.
Oui, je pense.
Moi, sans avoir creusé, c'est vrai que je trouve que c'est un outil qui est assez remarquable. Par contre, je trouve que son problème, quelque part, c'est les cas d'usage. Tu vois, c'est comme il est un peu au milieu, tu vois, ce côté enfant caché que tu disais. Je trouve que c'est vraiment très, très bien vu. J'ajouterais même qu'il y a un troisième parent un peu qui est Airtable, tu vois, aussi, tu vois.
Oui, t'as raison.
Et en fait, le problème, c'est que du coup, tu sais pas quand utiliser Coda plutôt qu'un des trois autres, tu vois, aussi. tu vois. Si tu veux faire du contenu, etc., quand même Notion est plus adapté à mon sens.
Oui.
Si tu veux vraiment faire une application, peut-être que c'est Bubble qui est plus adapté. Sur de l'outillage interne, c'est différent, tu vois. Mais c'est juste que j'ai rencontré... Bon, après, c'est peut-être un truc aussi, je ne m'y suis pas mis. Vraiment, je pense que je pourrais trouver des cas d'usage de Coda en interne pour contournement. Enfin, je te dis ça, et en même temps, il y a 2 ans, je me suis quand même pas mal posé la question. Et en fait, je n'en ai pas trouvé, quoi. Enfin, nous, on repose un peu beaucoup sur Airtable, mais bon, après, c'est des choix.
Oui, oui, tout à fait. Mais en vrai, ce que tu peux faire avec Airtable, tu peux le faire avec Coda, déjà. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien que tu puisses faire dans Airtable aujourd'hui que tu ne peux pas faire dans Coda. Je réfléchis quand même. Mais pour moi, il n'y a rien que tu puisses faire dans Airtable que tu ne peux pas faire dans Coda. Et du coup, bah, comme tu as la possibilité d'avoir beaucoup d'invités, bah, finalement, la barrière de Airtable qui était de faire des pages statiques que tu partages qui ne sont pas top, bah, avec Coda, tu peux vraiment faire un truc un peu sympa.
Après, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, néanmoins, ce que je dirais quand même, c'est que la partie base de données de Coda... quand même un peu moins développé qu'Airtable. Forcément, ils font pas que ça.
Oui.
Et aussi un peu moins, je sais pas comment dire, consistante, tu vois. C'est-à-dire que le fait de mettre des données dans une page, tu vois, tu as déjà un truc où, moi j'aime bien que dans Airtable, tu as une base, tu as des tables. Bon, c'est une architecture vraiment de base de données relationnelle classique, mais donc tu sais que tu es toujours en fait dans une base. Donc tu sais, t'as une interface, tout tourne autour des lignes, des colonnes, enfin, tu vois, alors que dans Coda, t'as un peu ce mélange, tu peux avoir plusieurs tables, un peu comme dans Notion, tu vois, sur une page, et ça, je trouve que c'est à la fois puissant, et à la fois aussi, ça c'est moins facile à prendre en main, tu vois.
Alors,
enfin, je sais pas comment dire, d'un point de vue utilisateur, hein, pas concepteur, mais...
Oui, oui, non, je comprends, mais après, eux, ils ont... un framework qu'ils ont développé qui est vraiment ultra intéressant. Je pourrais en parler des heures, donc je vais essayer de faire ça en une minute. Mais concrètement, il t'explique comment créer un espace qui soit cohérent, dans lequel tu as une partie base de données et tout le reste, en fait, c'est de l'affichage en fonction du cas d'usage que tu veux utiliser. Donc ta base, par exemple, d'employés, bah, tu peux, bah, un peu comme dans Notion, tu me diras, mais de manière un peu plus puissante, tu peux avoir juste des vues spécifiques. Tu as aussi la partie dashboard que tu peux faire directement dans Coda. Tu n'es pas obligé d'avoir un outil complémentaire. Tu adaptes ensuite tes vues au cas d'usage de ton utilisateur. Et je trouve ça vraiment très puissant quand tu suis vraiment leur méthodologie de création. En fait, de
ok, ça. C'est intéressant. Je ne savais pas qui proposait ça. Ce qui est intelligent parce que des outils comme ça aussi flexibles, quand il n'y a pas de cadre, on peut en faire n'importe quoi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, du coup, c'est d'autres gens qui vont proposer des méthodologies. On voit sur Notion la méthodologie para, etc. Ce que fait FinSuite sur Webflow, leur framework client first. Je pense que... Non, j'allais dire, ça manque sur Bubble. C'est pas vrai du tout. Sur Bubble, il y a nos amis d'Ideable qui ont fait OpenBuild, OpenBase. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi des choses qui existent aussi là-dessus. Et c'est intéressant. Moi, je trouve ça... Parce que ça montre aussi un peu le niveau de maturité de ces outils, c'est-à-dire que on commence à être sur l'étape du dessus, quoi. Proposer une manière d'utiliser ces outils sont tellement flexibles et puissants. Maintenant, c'est la question de comment bien les utiliser. Et il y a différentes manières, mais ça évite aussi aux gens d'être perdus et d'utiliser n'importe comment, quoi.
C'est mon utilisation de Notion, par exemple. J'utilise n'importe comment.
Ouais. Bon, après Notion, on va dire qu'il y a moins d'enjeux aussi quelque part, à part la clarté. Enfin, mais ouais, c'est. Non, mais c'est un bon point, parce que Notion, tu peux vite vraiment faire le bazar, quoi. Mais pour moi, ça fait un petit peu partie du jeu, quoi. Et puis après, tu fais un peu le ménage au fur et à mesure que tu apprends à l'utiliser. Mmh. Mais bon, c'est pour ça qu'on s'est dit que Notion méritait une formation, hein, par exemple.
C'est vrai.
Mais il y a plein de gens qui se disent, bon, bah ouais, Notion, c'est... Tout le monde, c'est vrai, hein, tout le monde peut se mettre à l'utiliser demain. Oui. Avec une formation, t'apprends un peu à bien l'utiliser, quoi.
On en revient comme à la modélisation. Tout le monde peut faire de la modélisation et bien le faire. C'est un métier, ça nécessite d'être formé.
Exactement. Ouais. Et c'est comme tout, hein, y a toujours un premier pas qui est accessible, moyennant un tout petit peu d'engagement, juste pour pas faire n'importe quoi. Hein.
Oui.
Et bah écoute, super. Merci beaucoup pour tout ça. Franchement, c'était hyper intéressant.
Merci à toi.
Et puis, bah écoute, on va se reparler de tout ça, je pense, bientôt, et puis aussi dans la communauté. Si, quand même, que je te, j'oublie pas de te demander où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors, sur le Slack, évidemment. Est-ce que, non, mais est-ce que c'est une question, j'ai pas l'impression. Genre, en tout cas, est-ce que tu produis des choses un peu, tu documentes, je sais pas, est-ce que tu as un blog
Pas trop. Jusqu'à là, au mois d'octobre, j'étais plutôt un observateur. Ouais. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, en 2022, je pense que je vais m'y mettre un peu plus sérieusement. Mais moi je suis plutôt à observer, je suis moins dans la production de contenu aujourd'hui, même si j'aimerais bien le faire. On l'a évoqué, moi j'aimerais bien lancer un podcast dont on a déjà parlé.
Bah, du coup, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a pas parlé là dans,
oui,
le,
là.
dans le live, mais enfin pour vous dire rapidement, mais ça, c'est effectivement un peu par rapport aussi un peu comment les gens... Le ressenti un petit peu des auditeurs, on se pose la question, effectivement, si tu as envie de faire un podcast sur les process, etc., et interviewer des gens autour de ce sujet et creuser et tout, c'est quelque chose qui paraît intéressant, quoi.
Ouais, moi j'ai bien envie de faire ça, et puis non, moi j'aime bien être présent dans la commu. Peut-être qu'un jour j'arriverai à avoir de bonnes idées pour créer du contenu, mais aujourd'hui, je préfère plus participer que créer.
C'est déjà pas mal aussi, on a besoin de ça,
ouais,
aussi.
Mon objectif est de rattraper le bot Twitch. d'avoir autant d'heures de vue.
Le temps de vue des lives. Et puis, ça c'est un peu, c'est tout frais au moment où on enregistre, mais donc tu fais aussi partie du conseil d'administration de l'association No Code France.
Oui.
Voilà, donc ça on va pas trop en parler, pas trop spoiler, le lancement est prévu au mois de janvier. Mais voilà, donc tu vas mettre à contribution, peut-être qu'on va faire du coda dans ce cadre-là, je sais pas.
Ce serait génial.
On va voir, on va en discuter, mais ça aussi, on a besoin de tes idées, etc., de cette contribution aussi à cet endroit-là, quoi.
Et ben, ce serait avec plaisir. Ce sera avec plaisir, ouais. Parce que c'est ce qu'on va faire, de toute façon. Je suis très content d'ailleurs de faire partie de l'asso No Code France. Et donner un peu de pouvoir à plus de monde.
Ouais, bah écoute, c'est super. On est à fin 2021, on est au moment où on enregistre. Je pense que 2022 nous réserve plein de choses passionnantes.
Tout à fait.
Donc on te retrouve sur Slack, Twitter, LinkedIn.
Et Twitch,
dans le chat, sur tous les lives. Voilà, ça fait pas mal d'endroits, ça fait pas mal de points de contact.
Ouais. N'hésitez pas à me contacter, hein, je suis très joignable d'ailleurs, si vous voulez discuter de quoi que ce soit.
Ouais. D'ailleurs, je suis curieux de voir j'ai eu un retour assez sympa de Benoît Dussault que j'ai interviewé, donc qui était le épisode 73, je crois. Faut que j'arrête d'essayer de me souvenir des trucs. Des fois, en fait, j'oublie. Enfin, je dis un truc complètement à l'ouest.
Je crois que c'est pas ça en plus.
Mais ouais, non, 60. Attends, j'ai perdu. Ouais, bref, là, j'en ai fait trop ces derniers temps. Mais il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ouais, j'ai eu plein de demandes d'ajout sur LinkedIn. Et j'ai trouvé ça sympa comme retour, tu vois, en termes de quel est l'impact en quelque sorte du podcast, tu vois, parce que moi, on se rend pas forcément compte, hein, de qui est-ce qu'il y a des gens qui écoutent, qu'est-ce que les gens écoutent, est-ce que les gens écoutent jusqu'au bout, est-ce que tu vois qui est-ce qu'on sait, et donc j'avais trouvé ça cool, donc j'espère que tu auras plein de requêtes ou des messages sympas, évidemment. Donc voilà. Ce sera un indicateur.
Exactement. Je te ferai un retour. En tout cas, n'hésitez pas. Je parle à tout le monde et je ne mords pas.
Merci beaucoup.
Merci. À bientôt.
Vous êtes encore là. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez découvert un petit peu plus sur Xavier, et puis surtout sur son monde, voilà, des systèmes d'information, des DSI et des grandes entreprises. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses surtout. N'hésitez pas à nous le dire, comme d'habitude, venez sur le Slack de No Code France, channel podcast contournement, et on continue la discussion. Xavier est très actif en plus dans la communauté, donc n'hésitez pas à lui poser des questions, à le contacter, à l'ajouter sur LinkedIn, et tout ce que vous souhaitez. Et si vous pensez que tous ces sujets qu'on a évoqués méritent de creuser dans d'autres épisodes de podcast, voire d'en faire un podcast séparé vraiment, nous ça nous paraît intéressant, parler plus de process et de ces choses-là, aider, mais d'un point de vue très pragmatique, évidemment, on va arrêter d'utiliser un petit peu ce mot process, mais on pense même à faire une formation sur le sujet pour aider les no-codeurs et les no-codeuses à s'emparer un petit peu de cette manière de travailler. Voilà, on ne se jette pas uniquement dans l'automatisation, mais on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on essaie de numériser de manière plus générale et ainsi faire sa base de données, faire les automatisations qui vont avec, réduire les interactions humaines et faire toutes ces choses-là pour gagner du temps, pour être plus productif et puis faire des longs apéros et des grandes balades avec tout ce temps libre. Comme d'habitude, vous connaissez notre philosophie sur la productivité. Voilà, donc si ça vous parle, contactez-nous, ça nous aidera beaucoup. On fait un petit peu notre petite étude de marché à la fin de cet épisode. Voilà, moi je vous retrouve demain avec Magali Boisseau qui a créé Bedicasa il y a plus d'une dizaine d'années. Et vous allez voir, c'est une histoire entrepreneuriale passionnante. Allez, à bientôt.